La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Swazik de Séraphin.légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprise inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Nathalie, comment ça va ?
Écoute, ça va très très bien.
Je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui.
Écoute, pareil, moi je suis hyper contente. On est dans un endroit très chaleureux, donc je pense qu'on va passer un moment très agréable.
On va passer un moment très agréable. En plus, on m'a dit beaucoup de bien de toi cette dernière semaine. Donc à chaque fois que je vais recevoir Nathalie Dupois, j'ai trop hâte. J'ai travaillé sur ces questions, c'était passionnant. Et que ce soit des membres de ton équipe, notamment Sophie, à qui je pense, ou encore Nicolas Baudin, qu'on avait reçu tous et toutes m'ont dit, tu vas voir, tu vas t'éclater, elle est géniale, ça va être top. Donc je suis très contente. Et en même temps, je suis un peu triste parce que, alors, je t'explique, on va évoquer évidemment plein de sujets hyper passionnants, mais en tant que riveraine, c'est le terme du 13e, citoyenne du 13e, avec ma compagne, on est triste en ce moment parce que dans le 13e, il y a un centre commercial qui s'appelle Italie 2 pour les personnes qui n'habitent pas à Paris. Et dans Italie 2, il y a un magasin qui s'appelle la Fnac. Et c'est un magasin, voilà, tout le monde connaît la Fnac évidemment, on n'a pas besoin de le présenter, mais on a appris il y a quelques semaines, que la Fnac d'Italie 2 allait fermer. Et on passe énormément de moments à aller acheter des bouquins à la Fnac ou même en librairie, enfin quel que soit l'endroit. Mais c'est vraiment un chouette endroit avec de chouettes collaborateurs qui nous donnent plein de conseils, qui sont toujours hyper accueillants, hyper souriants. Et on apprend qu'en fait, la Fnac ne va pas pouvoir continuer, va devoir fermer le magasin. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut garder espoir sur une réouverture dans le 13e ? Qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, malheureusement, je vais pas effectivement te donner de bonnes nouvelles. Avant plusieurs années. La Fnac, effectivement, dans le 13e, était installée depuis plus de 20 ans, oui. Depuis l'époque de PPR, quand Fnac était au sein du groupe PPR.
D'accord.
Et dans le cadre, effectivement, du départ du printemps, on n'a pas pu se mettre d'accord avec le propriétaire sur les conditions de renouvellement. Ah. Et malheureusement, le magasin, qui était effectivement un magasin rentable, et on n'avait pas du tout la volonté de fermer ce magasin. Hein. Donc voilà, donc les conditions n'étaient pas de nature à garantir la rentabilité du magasin. Donc voilà, ce qui effectivement explique ce départ, oui. Malgré notre volonté. Et bien sûr qu'on a le souhait, hein, puisque de pouvoir se réimplanter dans le 13e, mais en l'occurrence, ça ne pourra pas se faire avant probablement plusieurs années, compte tenu du marché.
Et voilà. Et on compte sur Jérôme Coumet pour faire une proposition de bail super intéressante pour revenir dans le 13e. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ouais. Perso.
On est très triste aussi.
Mais j'imagine surtout, ça doit être tellement frustrant pour toutes les équipes sur un magasin que tu dis justement rentable, de devoir mettre la clé sous la porte comme ça. Et puis je pense qu'il y a aussi des conséquences derrière d'un autre ordre qu'on n'évoquera pas, mais oui, c'est dommage. Mais voilà, mis à part la Fnac du 13e, on va surtout parler de toi aujourd'hui. Le but, c'est pas de parler du 13e, mais de parler de toi. Je vais te demander de te présenter, Nathalie, de la manière dont tu le souhaites, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te fait vibrer, qui es-tu, Nathalie ?
Alors, c'est toujours très difficile de parler de soi. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que je suis une hyperactive professionnelle.
Ok, génial, j'adore.
un petit peu toujours à 200%. Voilà, je suis quelqu'un de très ouvert. Moi, je suis motivée par ce que je dis souvent, finalement, dans le travail. Ce qui me passionne, voilà, ce sont les gens. Et je pense que plus les années passent, plus ce sont les gens, parce qu'on peut faire quelque chose d'un travail moins intéressant, mais si on le fait avec des gens passionnants, finalement, ça rend l'aventure passionnante. Et on peut faire un travail super intéressant, mais si on le fait pas avec des gens qui porte et qui donne envie, bah finalement ça n'a pas du tout de saveur. Donc voilà, je pense que je suis quelqu'un de qui se nourrit profondément de la relation humaine. J'ai vraiment 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 beaucoup besoin, moi, d'échanger. Je suis quelqu'un d'assez bavard.
Ouais, très bien, c'est top. Toutes les deux. Génial.
Donc j'ai vraiment besoin, et Je pense que c'est mon mode de fonctionnement d'une manière générale. Hein. Moi, je réfléchis en parlant, ce qui parfois peut être un peu déroutant, un peu déstabilisant. Parce qu'on peut avoir l'impression que je m'écoute parler, mais en fait, je construis mon raisonnement.
Donc, en parlant et à l'écrit, est-ce que tu construis aussi ton raisonnement par l'écrit ? Tu t'écris en même temps, tu prends des notes, comment ça ?
Alors, j'ai besoin, donc sur l'écrit, c'est plutôt une question visuelle, parce que j'ai l'impression que écrire fixe les idées, et donc ça permet aussi de les mémoriser visuellement.
Ouais.
Et donc, j'ai vraiment aussi beaucoup besoin, moi, d'avoir, quand j'écris, des choses très structurées, très visuelles, très organisées. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme quand j'ai plein d'idées dans ma tête, j'ai besoin de ranger la chambre.
Ouais.
Et j'ai besoin de ranger la chambre visuellement aussi. Et l'écrit aide aussi, finalement, à vérifier, c'est un peu comme, du coup, le fait, quand on construit un raisonnement à l'oral, de vérifier, finalement, la pertinence de son raisonnement. Et c'est très important, je pense, pour un juriste, d'avoir un raisonnement structuré.
Et pour tout d'ailleurs, même pas uniquement pour la matière juridique.
Pour toutes les matières.
Oui, ok, très bien. Et oui, donc d'où tu viens, Nathalie ?
Ah, d'où je viens ?
Du 13e ?
Non, non du tout. Alors non, maintenant Paris, c'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps, mais en fait, je ne suis pas du tout parisienne. Alors, je ne suis pas vraiment de quelque part, puisque moi, je suis née dans le Pays Basque, mais j'ai beaucoup vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, donc sur la Côte d'Azur. Okay. Et ensuite, je suis partie en Guadeloupe. Je suis partie en Guadeloupe à partir de la 5e. Et donc, j'ai fait de la 5e jusqu'au bac en Guadeloupe. Ensuite, je suis revenue en métropole pour passer mon deuil à Bordeaux. J'ai eu un petit peu de mal à me réacclimater à la métropole en arrivant des Antilles, surtout en droit à Bordeaux.
Oui.
Voilà, donc je suis repartie faire ma licence en Guadeloupe.
D'accord, à ce point.
Voilà, donc ça a été très très bien, hein, parce que c'est aussi important finalement dans la vie de se rendre compte de ce dont on n'a pas envie. Ça aide à construire après ce dont on a envie, on procède un peu par élimination. Et ensuite, donc quand même pour faire un Master 2, alors à l'époque c'était un DBSS, hein, je me suis dit que c'était quand même mieux d'être sur place en main. Et puis bon, la fac en Guadeloupe, c'est une fac qui est publiciste, donc ce qui est quand même un peu déstabilisant quand on revient de métropole. Et donc je suis repartie en métropole. Alors j'avais pas envie de retourner à Bordeaux, et voilà, j'ai eu une opportunité pour avoir un logement sur Toulouse, donc je suis partie à Toulouse.
Ok, donc en fait t'as fait le tour de France, métropole,
plutôt dans le sud quand même.
Oui, dans le sud. Mais j'adore le Pays Basque en plus. Encore une fois, je suis désolée de parler de moi, mais mon rêve avec mon père, c'est de faire justement le tour du Pays Basque avec une petite voiture, une petite décapotable, tous les deux, et de faire le tour des petits villages, des petits producteurs, et d'aller s'amuser voilà comme ça pendant
l'été.
Donc je te contacterai à ce moment-là.
Et donc voilà, donc j'ai fait ma maîtrise à Toulouse, et par contre il y avait pas le troisième cycle que j'avais envie de faire, parce qu'à l'époque c'était donc DBSS ou DEA, et donc moi je voulais faire du droit des affaires, et alors, bon, ça allait avec la fiscalité qui n'était pas forcément mon domaine de prédilection, mais en tout cas moi ce que je voulais faire c'était un DBSS, hein, et donc à Toulouse ils avaient qu'un DEA, donc je suis repartie à Bordeaux.
Ok, comment on grandit, on se forge un peu dans une ville qui n'est pas la sienne. T'es allée en Guadeloupe, t'étais pas du tout là-bas, tu arrives en 5e, j'imagine, pour des raisons professionnelles, pour tes parents.
Exactement.
Comment ça s'est passé ?
Alors, la première année, j'ai vraiment détesté.
Okay.
Alors moi, j'étais très timide. Et quand je suis arrivée, donc je suis arrivée, l'année scolaire avait déjà commencé. Donc j'étais dans un collège à la campagne. Alors on était en 83. Hein. Donc en 83, la Guadeloupe, c'était pas aujourd'hui l'ouverture qu'on a avec quand même une démocratisation du tourisme. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus élitiste, hein, de partir en vacances dans les Antilles. Il y avait Air France qui allait aux Antilles. Donc c'était quelque chose qui était beaucoup plus refermé, hein, sur soi. Donc puisque c'est une île. Et quand je suis arrivée, moi j'étais dans un collège où, en tant que métropolitaine blanche, hein, j'étais vraiment en minorité.
Oui.
Et avec donc j'ai pas souffert, moi, du que ce soit d'agressivité ou le fait d'être exclu volontairement. Par contre, forcément tout le monde vous connaît.
Oui.
Voilà, j'étais moi la seule entre guillemets blanche, hein, de ma classe. Ce qui fait que finalement, quand on est à un âge où on a envie juste de passer inaperçu, hein, comme beaucoup d'ados qui s'habillent de manière très passe-partout, donc voilà. Donc j'avais absolument pas envie, moi, d'attirer l'attention. Et forcément, malgré soi, tout le monde te connaît.
C'était raté.
Donc ça a été très dur finalement pour moi déjà d'être visible. et j'avais plutôt envie d'être invisible. Et par contre, moi, je suis vraiment ressortie, même si c'était une année difficile hein, pour quelqu'un de timide. Par contre, j'en suis sortie vraiment grandie parce que je trouve que d'être en minorité, une fois dans sa vie, ça développe beaucoup d'empathie. Parce que ça permet vraiment aussi de ressentir ce que c'est finalement d'être vu quand on n'a pas envie d'être vu. Et ça a l'air de rien, mais il y a des gens qui le vivent très bien, les gens qui ont des fortes personnalités et qui finalement qui s'affranchissent vraiment du regard des autres. Et le regard des autres, c'est pas si évident que ça. Moi, je pense que ça m'a fait énormément de bien, même si c'était difficile. J'en garde vraiment un souvenir très, très mitigé de cette première année, mais je pense que c'était une étape nécessaire, parce que ça, on est toujours le résultat de son histoire. Donc je pense que c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire, moi, dans mon cheminement.
Et quand tu étais enfant, est-ce que tu voulais déjà devenir juriste en marge et pas du tout au centre de l'attention, ou est-ce que tu espérais autre chose? Je reprends ton métier actuel et ta volonté de ne pas être vue avant.
Non, avant, quand j'étais plus jeune, je voulais être écrivain.
Ok, génial. Tu lisais beaucoup?
Oui, je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup et j'avais même commencé, quand j'étais vraiment vers l'âge de 8 ans, à écrire un roman.
Très bien.
Alors le seul problème qu'il y avait, hein, c'est que à chaque fois que j'écrivais un paragraphe, il fallait que je relise mon livre à mes parents depuis le début.
L'enfant supporte.
Donc je pense que mes parents n'ont pas forcément favorisé le développement de ma carrière d'écrivain, parce que je pense que c'est un peu saoulé.
Mais c'est ce qui n'est pas du tout bête ou comme démarche, pardon d'utiliser ce terme, mais au final, effectivement, t'écris un nouveau paragraphe, t'as envie de voir si c'est en cohérence avec tout le reste de ce que t'as écrit.
Oui, et puis ça va avec le fait de vouloir avoir la big picture et d'avoir finalement de reprendre depuis le début. Et c'est ce qu'on fait hein, quand on écrit, on reprend le raisonnement à chaque fois depuis le début. Et donc moi, j'avais la même démarche déjà. Hein.
Très bien.
Bon, après, j'ai voulu être poète.
Ok.
Voilà, donc pareil, j'écrivais des poèmes que j'avais une petite besace et que j'essayais de vendre du coup dans ma résidence. Et j'ai eu une période aussi au lycée quand on étudiait les surréalistes où j'ai découvert l'écriture automatique. Voilà, donc sur les poèmes, c'était génial.
Et t'as gardé tes carnets, tes Moleskine, je sais pas, t'as gardé de notes?
Non, j'ai pas gardé. Non. Alors, comme j'ai beaucoup déménagé. Ouais. À chaque fois, fallait faire du vide, et ouais. Notamment quand on est parti en Guadeloupe, pour le coup, c'était, fallait emporter le minimum de choses, parce qu'il y a beaucoup de déménagement, c'est quand même assez volumineux, donc non.
Et ça fait combien de temps que tu vis sur Paris?
Alors maintenant, je suis arrivée à Paris, donc à la fin de mes études en 95.
D'accord. Et alors entre 95 et aujourd'hui 2022, c'est pas trop compliqué de ne pas bouger d'une ville à l'autre?
Non, parce que Paris, finalement, moi, je trouve que c'est une ville qui est hyper intéressante. Alors, ça aurait été très compliqué pour moi de démarrer par Paris quand je suis revenue en métropole. Parce que c'est vrai que quand on est dans une île, c'est probablement comme quand on est dans une petite ville de province, on connaît tous les gens, il y a un côté cocon, il y a le fait finalement d'avoir sa communauté. À Paris, c'est vrai, quand on arrive, on est très anonyme, finalement les distances sont quand même assez grandes, on peut ne pas voir les gens parce qu'ils habitent en banlieue de l'autre côté de Paris, et finalement les distances deviennent assez compliquées pour se voir de manière régulière. Mais quand on travaille à Paris, moi j'y vois en fait une richesse incroyable. C'est qu'on rencontre énormément de gens. Donc c'est un foisonnement d'activités, de rencontres. Et quand on n'est pas de Paris, l'avantage aussi, c'est que tous les gens qu'on connaît, qui soient entre guillemets hors de France ou en France, viennent aussi de manière régulière à Paris. Et donc finalement, si j'avais été en province, il y a des gens, notamment de Guadeloupe, quand ils passent en métropole, que j'aurais pas vu.
C'est vrai.
Et donc Paris, c'est un concentré. On a la chance finalement de voir tout le monde. Donc finalement, on est à la fois loin des gens, mais en même temps, on a la chance de les voir régulièrement. Donc non, moi, c'est une ville que j'aime beaucoup. Alors après, enfin, je veux dire, rien n'est parfait. Hein.
Non, mais pour continuer à flatter notre ego de Parisien, on peut dire effectivement qu'on est chanceux d'être au centre du monde, finalement, en quelque sorte. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un avantage de pouvoir voir toutes ces personnes qui viennent régulièrement en France et qui forcément viennent à Paris pour des raisons professionnelles ou autres. Et Nathalie, tu fais partie de ces nombreux juristes, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui n'ont pas du tout une famille ancrée dans le droit. Est-ce que je me trompe?
Non, tu ne te trompes pas.
Je ne me trompe pas. Tes parents faisaient quoi, si je peux me permettre?
Alors, ma mère a travaillé assez tardivement, donc elle travaillait pour mon père, mais elle a travaillé quand on est arrivé en Guadeloupe.
D'accord.
Sinon, avant, elle ne travaillait pas. Et mon père a fait pas mal de jobs un peu différents, notamment en Guadeloupe, des menuiseries industrielles. Ouais, et après, il avait ouvert un cabinet de courtage en assurance.
D'accord.
Et lui, par contre, aurait rêvé d'être juriste.
Très bien. Et donc, et il aurait rêvé d'être juriste. Est-ce qu'il t'a justement poussé à le devenir?
Oui.
Ouais, oui.
Okay, moi, j'avais vraiment le syndrome très exacerbé de la bonne élève.
D'accord.
Donc j'ai fait tout ce que tout ce qu'on attendait de moi. J'ai fait du latin. Alors j'ai pas fait d'allemand parce qu'en Guadeloupe il y avait pas d'allemand, donc on faisait de l'espagnol. J'ai échappé à l'allemand. Par contre j'ai fait un bac scientifique parce que quand on est bon à l'école faut faire un bac scientifique. Et mon père m'a fortement poussé pour choisir du droit parce qu'il aurait rêvé de choisir du droit. Et puis surtout aussi en Guadeloupe, moi j'avais pas non plus de projet de me dire où est-ce que je vais travailler plus tard. Et en Guadeloupe, c'est vrai que finalement, on a moins de grosses entreprises, comme ce qu'il peut y avoir en métropole. Donc quand on se projette dans un métier, c'est très différent. On se projette. La question, c'est est-ce qu'on se projette salarié ou est-ce qu'on se projette profession indépendante?
D'accord.
Et mon père, était entrepreneur, mon oncle aussi. Et donc finalement, on se projetait plutôt dans une profession indépendante. Alors, je n'avais pas la vocation avocat, mais à l'époque, moi, quand j'ai démarré mes études, existaient encore les conseils juridiques qui n'étaient pas encore fusionnés avec les avocats.
Oui.
Parce que j'ai eu mon bac en 89.
Oui.
Et donc, dans l'idée, c'était plutôt de pouvoir finalement s'installer pour être conseil juridique.
D'accord.
Comme profession indépendante.
Et alors?
Et en 92, la profession de conseil juridique a disparu.
Et à ce moment-là, Alors,
je devais être en licence.
En licence, ok.
Ouais, en licence. Et après, j'ai continué finalement sans trop me poser de questions, en me disant, on verra plus tard. Et c'est plutôt à la fin de mes études, donc j'ai fait mon stage de DESS en cabinet d'avocat pour voir, parce que là, ça commence à arriver un peu la fin des études. Donc la question de, ok, mais je vais faire quoi derrière, commence à se poser. Ça ne m'a pas emballée.
Pourquoi ?
Ça ne m'a pas emballée parce que... Alors moi, j'étais dans un cabinet de deux avocats. Il y avait un avocat en droit du travail, non droit social, et puis l'autre en droit des affaires. Et donc moi, j'étais sur la partie droit des affaires. Et finalement, il y avait une dimension très, très commerciale, très finalement un peu solitaire quand même, le fait de travailler du coup dans le cabinet, d'avoir des contacts avec les clients, mais pas d'être dans une équipe. Je ne me suis pas projetée, je me suis dit, mais moi en fait je suis quelqu'un de très curieux, j'aime rencontrer des gens qui ne font pas forcément ce que je fais. Donc j'ai besoin moi finalement de cette espèce d'émulation, de ce côté... Enfin, j'ai vraiment, vraiment besoin de ce contact et d'un côté très, très projet, très... même si j'avais... à l'époque je ne mettais pas forcément des mots sur les choses, mais je ne me suis pas, je me suis pas sentie partie d'un tout.
Ouais, oui.
Et donc j'ai fait une année de césure l'année d'après, où là j'ai fait différents trucs. Voilà, j'ai fait un stage au ministère de la Justice, un stage au médiateur de la République, j'ai fait du télémarketing, j'ai fait plein de petits trucs, en fait, pour cheminer, pour apprendre un peu mieux à me connaître, parce que l'idée, c'est de savoir ce qu'on n'aime pas, et pour pouvoir, parce que c'est pas évident de savoir ce qu'on aime quand on sort des études, parce qu'on connaît pas tout, on a une vision hyper parcellaire, en fait, de ce qui existe, et finalement, on doit faire des choix sans savoir. C'est aussi, on en parlera plus tard, l'objet de mon engagement aussi dans l'AFGE avec les universités, c'est que je trouve que c'est très compliqué pour les étudiants de faire des choix, parce qu'on fait des choix, on peut avoir des biais, des espèces de stéréotypes. Et donc voilà, donc je trouve que finalement, cette année de césure, le fait finalement de cheminer, au ministère de la Justice, c'était des magistrats, de rencontrer des gens qui viennent un petit peu d'horizons différents, au bout d'un moment, ça commence en fait finalement à améliorer la connaissance qu'on a de soi et de ce dont on a envie.
Et puis des personnes qui... te conseille également, j'imagine, tu as l'opportunité de poser des questions peut-être.
Alors,
pas trop.
Objectivement, peu, parce que le fait effectivement d'avoir cette ouverture et d'être plutôt en demande vis-à-vis des autres, c'est venu plus tard moi, dans mon parcours. J'avais encore, même si je suis quelqu'un d'extraverti et qui a beaucoup échangé, j'avais quand même un fond de timidité qui faisait qu'en fait je n'osais pas. D'où le fait, effectivement, vraiment aujourd'hui de dire, mais il faut oser. Moi, j'ai osé beaucoup plus tard.
Oui.
J'ai osé beaucoup plus tard. Donc, ça a été très intérieur et ça a vraiment été une démarche beaucoup plus personnelle. Ce qui est dommage, parce que avoir un mentor, avoir des gens à qui on pose des questions, je pense que ce sont vraiment des accélérateurs et des boosters de connaissances et de carrière. Moi, j'ai pas osé.
Oui, mais tu l'as fait ensuite.
Je l'ai fait au fur et à mesure.
Ouais, et je pense que c'est hyper bateau comme phrase, mais les personnes qui sont les plus extraverties au final sont aussi celles qui ont été le plus timides, peut-être à d'autres moments, et qui ont appris à ne plus l'être. Et c'est très drôle parce que, c'est pas très drôle, mais c'est hyper intéressant. On avait cette conversation avant d'enregistrer et on parlait justement de. Tu me posais la question de savoir quel était mon parcours. Et je te parlais de cette année de séjour. Moi, je trouve ça quand même assez incroyable aujourd'hui. C'est un petit coup de gueule et j'espère que ça a changé. Mais moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir cette année de séjour que finalement, je n'ai pas obtenue. Malgré l'accord de l'université, que je ne citerai pas, qui est génial d'ailleurs. Malgré l'accord de la directrice du Master 1, j'ai été empêchée par le secrétariat de l'université. Secrétariat qui faisait très bien son travail, mais qui ne comprenait pas nécessairement mon projet. Et je trouve ça dommage de un peu parfois, dans certaines circonstances, de se retrouver dans des difficultés alors qu'on a un projet qui est prêt, tout est ficelé, de ne pas pouvoir le mener à bien. Mais on en parlera plus tard et tu diras justement quels sont tes engagements par rapport à l'université et où est-ce qu'on en est. Peut-être que ça a changé entre-temps, je ne sais pas, sur la ligne de séjour en droit.
Alors, ce n'est pas forcément que l'université, je pense aussi le monde de l'entreprise. C'est qu'on doit probablement beaucoup plus valoriser le fait d'avoir des expériences qui sont en dehors des rails. Mmh. Et ça, je pense que c'est hyper important parce qu'on ne donne pas forcément l'opportunité aux étudiants, quand ils sont sur le rail, de prendre le temps de faire un arrêt, de prendre un peu d'hauteur, un peu de recul, pour justement pouvoir réavancer de manière beaucoup plus construite. Et quand on est sur des rails, quand on est étudiant, finalement, on déroule. Et les étudiants vont dérouler, ils vont faire leur stage. Puis si le stage se passe bien, on va leur proposer un CDD ou un CDI. Et quelque part, finalement, il y a peut-être un peu une angoisse de ne pas saisir l'opportunité, de se dire je rate quelque chose. Et finalement, quand les choses se... À la rigueur, je pense qu'un étudiant, pour qui les choses se passent moins bien, il va peut-être plus finalement le faire, parce que quelque part finalement la vie va le contraindre à le faire, et il va finalement en bénéficier. Et paradoxalement, un étudiant pour qui tout roule super bien, lui en fait il va continuer sur ses rails sans forcément prendre le temps de se poser des questions.
Exactement, non mais c'est exactement ça et c'est exactement mon expérience en plus. Et peut-être pour prendre juste 2 minutes et t'expliquer, c'est un peu le bureau des plaintes aujourd'hui, Nathalie. La situation était hyper simple en fait. J'ai proposé justement à mon université de faire une année de séjour à la fin de mon master 1. Et donc je vais toquer au bureau de Madame Bakache. Madame Bakache, professeure en droit des assurances, qui me dit bien sûr volontiers, votre dossier me paraît très cohérent, super. J'avais déjà obtenu 2 accords de stage à l'époque et puis un diplôme universitaire le soir. Totalement cohérent avec ce que je voulais faire. Et puis derrière, au secrétariat, on me dit que non, ça n'est pas possible malgré l'accord de Madame Bakache. Et puis on me dit aussi que, on me demande quel est le Master 2 que je souhaiterais, dans lequel je souhaiterais postuler. Donc j'indique que c'est le Master 2 de Madame Judith Rochefeld, professeur Judith Rochefeld. Et j'indique l'intitulé du nom du Master. Et on me dit très bien, super. Écoutez, on vous recontacte. Et puis j'apprends par un mail qu'on a envoyé mon dossier 2 ans à l'avance à Madame Judith Rochefeld en lui disant Madame Selma Khaled veut candidater à votre Master 2 2 ans en avance. Et Madame Rochefeld, qui gentiment, et je la comprends, me répond, mais en fait c'est totalement une rupture d'égalité par rapport aux autres étudiants et ce ne sera pas possible. Et je n'ai pas donné mon accord pour l'envoi du dossier. Donc c'est des situations parfois un peu loufoques de ce type-là qui... On trouve d'autres solutions, mais qui, moi, m'ont un peu irritée, même si je comprends que ces personnes ont eu de bonnes raisons de le faire. c'était le petit point, et on le gardera ou pas, on le supprimera, on verra. Qu'est-ce qu'on voulait évoquer d'autre avec toi, Nathalie? Oui, ta première expérience professionnelle au sein de Mutuelle Associée Monceau Assurance, une dénomination sociale assez longue. Et ta première recherche d'emploi a duré 7 à 8 mois. Et je suis très contente qu'on puisse l'évoquer, parce qu'on a souvent tendance à penser que les personnes qui sont aujourd'hui, qui ont atteint des responsabilités, qui sont directrices juridiques de Fnac Darty, par exemple, ou autres, n'ont pas eu de difficultés, ou en tout cas de moments de doute dans leur parcours. 7-8 mois, ça peut paraître long pour trouver un premier emploi. Ça l'a été pour toi, j'imagine. Ça l'est pour n'importe qui. Donc, je suis contente qu'on démystifie ça. Est-ce que tu peux... Je sais que tu en as déjà parlé dans un autre podcast, qu'on salue, qui est celui de Delphine Bordier, Tout droit, tout simple. Mais est-ce que tu peux justement nous raconter comment... c'est ça qui m'intéresse. Comment t'as failli devenir développeuse informatique au lieu de juriste d'entreprise? Je trouve ça génial.
Alors oui, je pense que t'as raison. C'est vraiment important de démystifier parce que la vie c'est pas un fleuve tranquille et c'est surtout pas un fil Instagram où tout est beau, tout est rose. Non. 7-8 mois c'était très long. C'est surtout que alors maintenant, à l'époque, hein, il y avait des lettres manuscrites, donc on ciblait. Et le problème qu'il y avait, c'est de cibler que les grosses boîtes.
Okay.
Parce qu'on cible finalement les boîtes qu'on connaît. Mm-hmm. Très compliqué de penser à celles qu'on ne connaît pas. Et donc, dans la recherche, il n'y avait pas d'offre d'emploi. C'était moi, j'ai cherché du travail. Voilà, j'ai commencé en 97. Et donc, c'était un moment où, finalement, il y avait peu de postes de juristes. On était quand même aussi au tout début, vraiment, des constitutions, des directions juridiques. Donc, ce n'est pas non plus des grosses directions juridiques. Et donc, moi, j'avais que des lettres de refus. J'avais même pas d'entretien.
Okay.
Et je me disais, mais c'est terrible en fait, qu'est-ce qui fait que ça va changer? Et donc, effectivement, donc ce qui a été un peu le déclencheur d'un changement chez moi, c'était j'avais postulé pour un poste qui était un poste qui me ressemblait, droit des sociétés, ce que je recherchais. Et donc, au bout de 3 semaines, sans nouvelles, je suis convoquée à un entretien. Je me dis, génial, c'était une grosse SS2I qui était dans le nord de Paris. Et donc j'arrive pour l'entretien et je me retrouve dans une salle où on était, je sais plus combien, mais une tripotée de candidats. Et donc une femme donc prend la parole et dit, bon voilà, donc déjà avant tout, je vais vous dire que le poste a été pourvu. Alors là, tout le monde se regarde, en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et donc elle s'est dit, bah nous, on est une SS2I. À l'époque, ils avaient énormément mal à trouver des informaticiens. Et par contre, sur le poste de juriste, elle avait été sciée par le nombre de candidats. Alors, ce qui, quand elle le dit, en plus, est hyper déprimant, parce qu'on se dit, mais c'est terrible, quoi. Elle dit, mais il y a tellement de juristes qui, finalement, ne trouvent pas de travail, parce qu'elle avait eu, des CV de gens qui avaient mais rien à voir avec la description du poste. Parce que des gens désespérés, quoi, qui postulaient pour un poste de droit des sociétés, alors qu'ils n'avaient pas du tout fait ça.
Qu'ils faisaient du droit social.
Et donc, et là, c'était, je crois que c'était le moral au fur et à mesure qu'elle parle, qui descend. Enfin, je veux dire, mon Dieu, mais c'est... Et donc, ils avaient une idée géniale de dire, en 3 semaines, ils avaient monté une formation en se disant, nous, on n'arrive pas à recruter des informaticiens. Il y a des juristes qui sont Bac+5, qui ont la tête bien faite, qui ne trouvent pas de travail. Mmh. On va monter une formation pour que ces juristes deviennent informaticiens. Et en contrepartie, ils nous devront, X années, 2 ans de boulot dans la boîte. Et donc, donc c'était ça le projet. Donc, elle a dit que ceux qui sont intéressés restent dans la salle et ceux qui ne sont pas intéressés sortent. Et donc, moi, je suis partie. Hein. Et par contre, beaucoup de gens sont restés.
Mais ce qui en soi peut être une chouette opportunité, parce qu'on peut, on peut être juriste et passionné de droit et vouloir en faire sa carrière, mais on peut être un peu aussi juriste par défaut et se dire, je suis aussi intéressé par la tech, je suis dans une SS2I qui a l'air de bien fonctionner, j'en sais rien, mais peut-être que c'est une opportunité pour moi.
Alors, à l'époque, il n'y avait pas la legal tech, donc il y avait vraiment finalement une frontière entre le monde de l'informatique et le monde juridique.
Hein, d'accord.
C'était pas du tout, il n'y avait pas du tout de passerelle évidente. Et pour le coup, les gens qui étaient là, c'était plutôt parce qu'ils ne trouvaient pas de boulot. Donc, c'était pas une démarche volontaire, un choix. Après, qu'il y ait des gens qui potentiellement, finalement, aient fait ce choix-là et que ce soit retrouvé parce que la vie est faite de surprises, j'espère. Oui. J'espère pour eux que les gens qui ont pris cette opportunité, finalement, s'y sont retrouvés. Moi, honnêtement, c'était faire de l'informatique, surtout à ce moment-là.
Non.
Voilà, c'était. Enfin, je veux dire, j'en étais vraiment très, très loin.
Pas pour moi, non, merci.
Mais bon, ça a été un bon booster pour changer de méthode.
Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pour changer de méthode?
Alors, justement, pour changer de méthode, je me suis dit, finalement, là, là j'ai quand même eu un moment où j'étais vraiment au fond du trou en me disant, je ne trouverai jamais de travail. Et informaticienne, c'est pas mon truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ce que j'ai fait, en fait, c'est de me dire, puisque j'écris aux boîtes que je connais, tout le monde écrit à ces boîtes-là. Et moi, mon CV, en fait, il a rien de... il n'y avait rien qui dépasse. J'avais pas de double cursus. J'avais pas un truc qui fait que, finalement, sur un CV, visiblement, j'attirais l'attention. Et donc, je me suis dit, il faut finalement que j'attire l'attention. Et donc, j'attire pas l'attention là où tout le monde écrit. Donc, il faut que j'écrive là où personne n'écrit.
Hyper smart.
Voilà. Et donc, je suis allée à la chambre de commerce et j'ai pris le compas avec l'annuaire des PME, des ETI, donc les boîtes qu'on ne connaît pas. Et j'ai fait un mailing. Donc j'ai pas fait de lettre manuscrite, j'ai écrit une lettre standard et je l'ai envoyée. J'ai envoyé, je crois, à peu près 300 candidatures à des boîtes que je ne connaissais absolument pas.
Par courrier à la poste?
parcourir la poste.
Génial.
Alors, pour le coup, hein, là, il y a un effet aussi déceptif, hein, parce que ces boîtes-là, elles ne sont pas structurées pour répondre.
Ouais.
Donc, je crois que j'ai peut-être eu quelques refus polis, mm-hmm. et j'ai eu un entretien dans une boîte.
Sur tous ceux qui avaient été envoyés. Et ça a marché.
Et ça a marché.
Génial. Ok. Tu te souviens de c'était une boîte avec des juristes à la base ou pas du tout? Tu étais la première juriste?
Alors non, c'était pour remplacer une juriste qui avait le statut un peu de directrice juridique qui partait en pré-retraite.
D'accord. Ok. Donc énorme challenge pour une non.
Ah oui, ça a été très stressant.
en fait, tu remplaces la personne qui a la charge du juridique au sein de l'entreprise. C'est ton premier métier?
Oui, alors il y avait une directrice sur la partie produits d'assurance, puisque je n'étais pas du tout sur la partie assurance. Hein, donc sur la partie, donc, c'était beaucoup de l'assurance vie, donc avec grosse dimension fiscale. Donc ça, c'était cette directrice juridique produits assurance donc, qui chargeait de ça. Et la directrice juridique, en l'occurrence le poste, c'était tout ce qui était le reste.
Ok.
Voilà. Donc c'était voilà, il n'y avait pas vraiment de domaine prédéfini. C'est tout ce qui n'était pas produit d'assurance. Donc voilà, très hétérogène. Au début, oui, parce qu'en fait, en plus, je dépendais du secrétaire général qui avait un profil plutôt opérationnel, hein, et personne m'a rien expliqué. Alors la juriste que je remplaçais, donc qui partait en retraite, donc négociait son départ parce qu'elle partait en pré-retraite, parce que j'étais arrivée, donc c'est un nouveau DG qui avait à peu près remplacé toute son équipe, voilà, sa garde rapprochée.
Okay.
Et donc elle a signé son accord de départ le jour où elle partait. Et donc avant, elle avait refusé de me parler. Et le jour où elle partait, elle m'a dit « Bon, ben voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions », donc ce qui était un peu trop tard. Et personne m'a rien expliqué.
C'est quand même assez particulier comme démarche.
C'était super particulier, mais c'est surtout quand moi, c'était mon premier vrai job, et je me suis retrouvée finalement à mon bureau et personne m'a expliqué ce que je devais faire, et il y a des gens qui m'appelaient pour me dire ah bah tiens tel truc, quand est-ce que tu peux voilà me le faire, et donc je raccrochais, je me dis c'est moi qui m'occupe de ça. Et au début c'était horrible quoi, je me suis dit mais ils sont fous, hein. Je me suis dit je vais me planter.
Oui, donc t'avais quand même pris conscience que c'était pas normal, enfin même si c'était ta première expérience professionnelle, t'avais pris conscience qu'on devait quand même prendre le temps de t'expliquer les choses.
Ah bah oui. C'est surtout que bon, je me retrouvais finalement à essayer de comprendre ce que j'avais à faire, parce que j'avais pas de timeline, personne m'expliquait où étaient les choses. Et je me suis détendue, je crois qu'à un moment donné, j'ai su combien gagnait la juriste en fait que je remplaçais.
Ok.
Et je me suis dit, bon, c'est pas la même chose. Je me dis finalement. Ils ont fait un pari,
oui.
Sur la petite jeune.
Oui.
Ils ont pris leur risque. Et c'est pas à moi, finalement, de supporter le stress, finalement, de cette espèce de gap énorme entre la personne que je remplace et moi.
Oui.
Et je me suis dit, c'est un challenge. Donc, j'ai pris un peu de hauteur et de recul en me disant, bon, je vais pas non plus tout porter, moi, sur mes épaules. Je vais faire de mon mieux. Et donc voilà, donc j'ai arrêté de stresser pour me concentrer sur l'essentiel, ce qu'il fallait délivrer. Et voilà, et j'y suis restée 3 ans et demi, extraordinaire, et j'ai adoré. Et en même temps, c'est une expérience très enrichissante finalement de se débrouiller,
oui.
Parce que ça développe vraiment pour le coup, hein, le fait de se dire, j'ai pas de filet.
Oui.
Et quand on n'a pas de filet, en fait, on se dépasse.
Très bien, effectivement, je suis totalement d'accord. Et effectivement, t'es restée 3 ans et demi au sein de cette entreprise. La partie qui m'intéresse le plus, et no offense pour Mutual Assurance, pardon, Mutual Associé Monceau Assurance,
oui.
Pardon, c'est toute la partie qui commence à partir de M6, TF1 et ce qui suit. J'ai vraiment, je pense que j'ai passé un super moment à préparer des questions. Je passe toujours un super moment à préparer les questions de tout le monde, mais tout en particulier, je me suis éclatée. J'ai trouvé ça génial. Parce qu'en fait, tu as commencé justement en 2000, enfin tu as rejoint en 2001 M6, qui était la petite chaîne entre guillemets qui monte à l'époque. Et le groupe M6, tout le monde connaît, j'ai pas besoin de présenter évidemment, c'est de la production, de l'acquisition de contenu, des médias à télé et radio, une régie pub évidemment, parce que qui dit audience dit évidemment pub, et d'autres activités qui sont diversifiées, notamment avec Stéphane Plaza Immobilier. Et c'est des chiffres qui sont quand même assez impressionnants, évidemment, avec un chiffre d'affaires qui est aussi impressionnant, une part d'audience auprès des femmes responsables des achats. On dit plus
ménagère.
C'est très bien. C'est 22,8% de part d'audience auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Enfin, bref, énormément de chiffres, des programmes culte et notamment une volonté justement de se différencier des autres qui est assez intéressante, notamment en 98 où justement M6, les autres chaînes, notamment TF1, sont en pleine Coupe du Monde et M6 décide de faire justement du 0% football et ça c'est hyper, hyper important, hyper clivant comme choix. C'est Loft Story, on va en parler. Je ne pensais pas pouvoir parler de Loft Story pendant ce podcast, mais on va en parler. C'est Top Chef, c'est L'Amour est dans le Pré, Pékin Express, enfin, énormément de programmes qui sont hyper importants, qui ont marqué, continuent à marquer la télévision française. Certaines pour de bonnes raisons, d'autres pour d'autres raisons, et on ne sait pas le sujet, on ne fera pas de jugement de valeur. C'est des programmes qui sont quand même assez importants. Et toi, tu arrives justement en 2001. C'est une année hyper marquante pour M6 et la télévision de manière générale d'ailleurs, parce que M6, c'est la première chaîne de France à diffuser une émission de télé-réalité. On en parlait avec Love Story. Et d'une part, il y a un succès immense avec des records d'audience pardon, qui sont battus, 7 millions de téléspectateurs qui suivent la finale avec un pic à 11 millions. On se souvient tous de cette scène, je pense que tu te souviens, on se souvient tous, moi je l'ai vu en replay, mais justement des candidats qui arrivent sur le tapis et qui sont déboussolés parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans une situation qui les dépasse totalement. Et d'autre côté, pas mal de controverses quand même sur la qualité et le contenu du programme. Et vous êtes au milieu de tout ça chez M6. Donc il y a évidemment les équipes qui travaillent sur le contenu, mais il y a évidemment toutes les autres équipes au siège. Est-ce que tu te souviens justement de tes premiers jours chez M6? Est-ce que tu sentais cette tension par rapport à ce programme qui venait d'être mis en place?
Alors moi je suis arrivée du coup effectivement fin janvier, donc un tout petit peu avant le lancement. Alors moi quand je suis arrivée, je suis vraiment arrivée dans les médias par hasard. Hein. Je connaissais rien à l'univers des médias, ça n'a jamais été une cible, donc j'avais vu l'annonce sur le poste, je me suis dit quand je l'ai lu, je me suis dit c'est moi. Donc moi j'étais vraiment drivée par le poste.
D'accord.
Pas du tout l'entreprise, pas le secteur d'activité, donc j'étais pas du tout moi finalement ni impressionnée ni c'est vrai qu'il y a des gens hein, notamment dans la propriété intellectuelle, voilà, ils se disent voilà je veux travailler dans les médias, dans le cinéma, enfin voilà, donc où il y a un vrai enjeu finalement de fait d'avoir ce poste dans cette entreprise. Moi c'était pas mon cas. Non, j'étais impressionnée parce que je venais moi d'une ETI de 300 personnes et donc qui était pas entre guillemets connu en termes de notoriété, hein. Donc arriver dans une société qui a une notoriété, qui est une grosse boîte, hein, puisque c'est une boîte cotée, donc voilà, donc c'était plutôt moi le challenge du poste sur lequel j'avais forcément, on a toujours du stress hein, quand on commence un poste, hein, de se dire en plus moi j'étais dans ma première boîte était quand même assez c'est pas familial, mais avec un côté quand même très un peu, garde rapprochée, où on connaît tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus, avec un relationnel de proximité. C'est pas pareil quand on arrive dans une boîte un peu plus grosse, hein, c'est un peu plus impersonnel. Donc moi, j'avais un stress lié au poste, et puis découverte d'une société cotée, parce que moi, j'en avais pas fait. Hein. Le groupe dont je venais, les sociétés d'assurance mutuelle, c'est très particulier. Hein. C'est pas du tout les mêmes règles, hein, même sur un plan droit des sociétés. Donc voilà, donc moi, c'était plutôt le challenge d'apprendre de nouvelles matières. Après, c'était une année. Je ne suis pas sûre qu'au démarrage, j'ai mesuré finalement le caractère exceptionnel de la période qu'on vivait. Puisque moi, c'était vraiment nouveau, en fait, mon arrivée dans l'audiovisuel.
Ouais.
Donc finalement, je n'avais pas de référentiel. Je ne regardais pas beaucoup la télé. Donc en fait, ce n'était pas quelque chose sur lequel j'avais finalement des idées préconçues. J'arrivais vraiment, moi, sans du tout avoir des idées préconçues sur comment ça allait se passer. Et par contre, oui, c'était une période qui était... Alors, moi, du coup, effectivement, quand j'ai changé ce secteur d'activité, j'attendais d'avoir quelque chose où il y ait, où ça pulse, où ce soit très dynamique. Là, je pense que j'ai été servie. Et c'est vrai, comme tu le disais, le Loft, ça a été un moment assez incroyable. Et c'est un peu une prise de conscience accélérée de tout ce que véhicule finalement une enseigne qui a une notoriété, avec forcément hein, les gens qui adhèrent, les détracteurs, tout le monde a un avis sur la question, et le Loft, tout le monde avait un avis sur la question.
Et
c'est très bizarre parce que finalement quand on est juriste, quand on a des enfants, c'est déjà toujours très compliqué d'expliquer qu'est-ce que c'est, juriste d'entreprise. Mon premier job, dans les dîners en ville, si tu dis je suis juriste dans telle boîte, les gens disent ok, super. Voilà. Quand tu disais je suis juriste du coup chez M6, alors, les gens ne s'intéressaient pas forcément au métier. Par contre, le Loft.
Pas comme moi.
le loft, qui était vraiment quelque chose d'assez... parce que, comme tu dis, pas de jugement de valeur, mais en même temps, les gens ne peuvent pas s'en empêcher. Et pour le coup, ça soulevait beaucoup de questions. C'est vrai que c'était, je crois que ça a fait 3 fois la une du monde. C'était une émission qui, à l'époque, était regardée aussi par les CSP+. Finalement, ça transcendait les générations, ça transcendait les classes sociales. C'était vraiment un phénomène de société qui a beaucoup questionné beaucoup sur la question de droit à la personne, droit à l'image. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose qui était, et en même temps, ça exacerbait aussi le côté, un petit côté voyeur.
Oui.
Donc c'était et toute finalement l'ambivalence très très particulière que les gens ont finalement à la fois de dire, de critiquer, mais en même temps de regarder.
Et c'est encore le cas aujourd'hui sur ce genre de programme.
Oui,
ouais.
Donc c'est assez fascinant. C'est assez fascinant de voir finalement que c'est un sujet qui est assez compliqué. Mais il y avait des psychologues, des sociologues. Enfin, je veux dire, le phénomène a vraiment été fouillé. Et en même temps, j'ai pas ressenti du tout, moi, quand j'y étais finalement, de problème avec ça. Parce que c'était finalement aussi un peu le reflet de la société. Et quand on se dit, il y a un côté... c'est vrai qu'il y a eu des termes, télépoubelles, d'ailleurs, ils sont venus déverser des poubelles.
Oui. Devant le siège dans lequel tu travaillais.
Devant le siège, exactement. Donc je pense que quelque part, c'est aussi le reflet un peu de ces injonctions contradictoires que chacun en soi. Mais bon, c'était quand même une période extraordinaire d'être au cœur finalement de ça et d'avoir finalement un côté, un espèce de débat sur la place publique sur un sujet qui était finalement un espèce de phénomène de société.
Et ce qui était très drôle, c'était notamment, je parlais de cette ambivalence et de ce jugement de valeur, je vais y arriver, et notamment la réaction des dirigeants TF1 à l'époque qui avaient dit jamais on ne produira ce type de programme, en tout cas jamais on ne diffusera ce type de programme, et c'est ce qui est arrivé quelques années plus tard.
Je pense qu'en général, la vie nous apprend, il ne faut jamais dire jamais.
Jamais, oui.
J'avais dit jamais je vivrai à Paris.
Et tu es à Paris depuis.
C'est l'endroit où j'ai vécu longtemps maintenant.
Très bien, voilà. Et j'allais te poser une question là-bas sur les challenges juridiques d'une émission de télé-réalité. Je me rends compte que j'ai été totalement à côté de la plaque parce que ce n'était pas du tout tes enjeux. Et en fait, je ne vais pas du tout te poser cette question. Je vais plutôt te demander quels étaient tes challenges en tant que juriste, droit des affaires, avec une grosse dominante droit des sociétés, si je comprends bien, corporate donc. Quand on a un groupe comme M6 avec énormément de filiales, si je ne dis pas de bêtises, quels sont les challenges juridiques qu'on rencontre quand on arrive dans ce genre d'entreprise ?
Alors, moi, en plus, je n'étais pas à la direction juridique. Donc, de la même manière que dans ma première expérience, je ne dépendais pas d'un juriste, j'étais à la direction financière.
D'accord.
Donc voilà, j'étais la seule juriste de la direction financière et j'avais tout ce qui était corporate, M&A, tout ce qui était aussi engagement intra-groupe et la partie assurance. Donc, le premier challenge pour moi, ça a été de monter en compétence sur la société cotée, parce que je découvrais, moi j'avais pas fait de société cotée avant, donc c'est vraiment découvrir cet environnement. Alors tout ce qui était finalement gouvernance, c'est quelque chose qui était très présent dans mon premier groupe, puisque le monde de la mutualité, il y a des délégués sociétaires, des conseils d'administration, des assemblées générales, donc il y a une vie sociale qui est très, très présente, avec beaucoup de gens très investis, puisque ce sont aussi des gens qui s'investissent bénévolement dans le monde de la mutualité, donc il y a une dimension gouvernance très forte, donc ça j'étais vraiment bien rodée sur cette partie gouvernance. Après j'ai découvert le M&A. Parce que pour le coup, c'était pas du tout quelque chose que j'avais pratiqué. Donc, j'ai vraiment découvert le M&A en apprenant sur le tas, avec des équipes M&A et Strat, avec des avocats. Donc, ça, c'est vraiment pour moi, ça a été vraiment la découverte de tout ce qui est, M&A.
Sur quel type de fusion c'était quel type d'entreprise, quel type d'opération en particulier ?
Alors, il y a eu un peu de tout. C'était les débuts d'Internet.
Ouais.
Il y avait aussi beaucoup de M6, du coup, investi dans Paris Première. Il y a eu des créations de JV notamment, ce qui explique après la transition vers TF1, puisqu'on avait des montages de JV avec TF1.
JV ?
Joint Venture.
Ok.
Voilà. Beaucoup de sujets aussi. Donc on avait monté Live Stage, donc qui était sur la comédie musicale, hein, Autant n'importe le vent. Donc c'était, ça pouvait être très diversifié, mais quand même dans le secteur, plutôt dans le secteur audiovisuel et Internet, puisqu'on était sur les débuts d'Internet.
Oui. On en a parlé avec Stéphanie Fugou d'ailleurs il y a quelques semaines, c'était passionnant. C'était quoi les enjeux d'M6 justement par rapport à Internet à ce moment-là?
Je pense que comme tout le monde, hein, c'est une courbe d'apprentissage. Hein, ouais. Et je pense qu'à l'époque, effectivement, je pense que tu en as parlé avec Stéphanie, il y a beaucoup de groupes qui en ont payé un peu les pots cassés, parce que c'est vrai que c'était la question, c'était qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est plutôt, les enjeux étaient plutôt le fait de se dire, et c'est comme tout, hein, là on voit avec le Web 3 maintenant, c'est toujours la question, c'est personne n'a de boule de cristal. Qu'est-ce qui va être un effet de mode et qu'est-ce qui va marcher? C'est très compliqué. Un groupe industriel, hein, ne fait pas du capital risque, donc c'est très très différent comme démarche. Donc c'est pas nécessairement évident. Et la question est toujours aussi de savoir, est-ce que dans ces cas-là, il faut faire du test and learn en croissance interne, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre de voir et de racheter ensuite des POC qui ont réussi. Donc c'est pas évident quand on est sur l'essor d'une nouvelle activité, de savoir finalement comment on y va.
Et qu'est-ce qu'on fait du coup chez M6 à ce moment-là? On essaye de chercher un juste milieu. On y va à fond ou on n'y va pas?
Alors, c'est très différent quand on est le challenger et quand on est le leader. Parce que quand on est challenger, on a finalement peut-être plus de latitude, parce qu'on est peut-être un petit peu moins visible. Et en même temps, il y a aussi une nécessité de rationaliser ses investissements. Donc il y a forcément, plutôt du côté des équipes, de la stratégie et du M&A dans les sociétés, un sourcing des projets qui est super important pour pouvoir sourcer les bons projets. Et surtout, quand on a des équipes qui sont quand même un peu lean, ce qui était le cas chez M6, il y a aussi le fait de dire on peut pas non plus disperser sur 150 projets. Donc il y a vraiment l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir avoir un bon sourcing pour pouvoir concentrer les efforts sur finalement peu de projets. C'est toujours un peu la difficulté, hein, de se dire finalement, alors ce serait formidable si on pouvait travailler 50 pistes et se dire à un moment donné je vais faire des choix. On n'a pas forcément non plus les budgets et les ressources pour le faire. Donc c'est un gros enjeu de sourcing.
Ok, et tu as travaillé, tu disais, tu étais rattachée à la direction financière, donc tu étais la juriste, la seule juriste rattachée à cette direction. Tu as travaillé aussi avec des équipes projets, j'imagine, sur les opérations de M&A. Qu'est-ce que ça fait de justement travailler avec des équipes qui n'ont pas du tout le même rôle que soi? Enfin, qu'est-ce que tu as appris de ça? Et puis, est-ce que c'est un sujet, je comprends depuis un an et demi que c'est un sujet, le rattachement à la direction financière. Certains sont pour, certains sont contre. Je veux bien avoir ton avis sur ça, si tu le veux bien.
Ouais, non, pas de souci. Alors, je pense que chaque entreprise est différente. Alors, on choisit pas forcément son rattachement quand on arrive, rien n'est jamais blanc noir, donc il y a toujours du pour et du contre, hein, et il y a autant d'organisations que d'entreprises. Donc à l'époque, je me posais pas vraiment la question, surtout que moi, ma première expérience, j'avais pas de boss juriste, donc finalement, moi, c'était un peu une continuité de pas avoir de boss juriste, hein, j'étais rattachée au CFO. Après, quand on fait du droit des affaires, donc dans le corporate, on travaille quand même beaucoup avec la direction financière. On travaille beaucoup avec la compta, le contrôle de gestion, on travaille beaucoup avec la stratégie M&A, finalement, peu avec la direction juridique.
Donc ça fait plus sens.
Donc moi, c'était pas choquant pour moi d'être attachée à la direction financière. Et puis, quand on est dans l'entreprise, après, au fur et à mesure, mais ça, j'en avais pas conscience, mais j'en ai pris conscience au fur et à mesure, ce qui est important, c'est d'avoir un mode de fonctionnement agile. Peu importe là où on est, ce qui compte, ce sont les gens avec qui on travaille. Et d'une manière générale, de toute façon, on travaille de manière hyper transverse quand on est juriste dans l'entreprise. Donc, on travaille avec tout le monde. On travaille autant avec les ressources humaines pour qu'on n'est pas rattaché aux ressources humaines. On travaille avec les opérationnels. Enfin, et donc, finalement, dans un mode projet, que ce soit sur un gros dossier, une grosse négociation, un projet M&A, quand on est sur des notions de gouvernance, on va avoir des interlocuteurs très différents dans toutes les directions. Donc, quand on a le relationnel et la confiance avec les différentes directions, j'ai tendance à dire, finalement, on transcende un peu son rattachement hiérarchique. Donc, voilà, c'est vraiment le fonctionnement agile, mm-hmm. cette notion très, 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 très figée, pyramidale du rattachement hiérarchique, comme si les rattachements hiérarchiques allaient conditionner finalement la manière dont on travaille. Finalement, moi, je ne l'ai jamais vraiment ressenti parce que tout est une question du relationnel concret. Et chez M6, il y avait un mode de fonctionnement très simple, très direct. Alors, c'était d'ailleurs quelque chose que j'ai beaucoup apprécié après le monde de l'assurance, qui était quand même un petit peu plus formel, un petit peu plus statutaire, avec vraiment des rôles très définis et puis un côté aussi vestimentaire, hein, plus formel. Quand je suis arrivée dans le groupe M6, voilà, moi j'ai adoré le côté très direct, le côté très agile, le côté très rapide de l'exécution, la simplicité des relations entre les différentes parties prenantes internes, qui fait que finalement, moi, le rattachement hiérarchique a vraiment pas été... Dans mes 5 ans, en fait, jamais je me suis dit, à un moment donné, pour moi, c'est une difficulté.
Sans sujet. Ouais.
Ça l'a été, en fait, sur la fin, sur le fait de me dire, OK, mais ça fait 5 ans que j'y suis, et j'avais envie de plus. Et là, pour le coup, effectivement, le fait d'être au sein de la direction financière a limité pour moi le champ des possibles, hein, parce que je voulais pas abandonner le corporate. Et donc là, c'était plutôt une question d'être arrivée finalement un peu à l'étroit dans mon poste.
Oui, donc c'était une question de mission et pas une question de pouvoir. Ou
exactement.
Ok, très clair. En préparant ton épisode, je suis tombée sur un article du Monde qui date de 2006 et qui est l'année de ton arrivée au sein de TF1. Et donc je disais, ce qui est hyper intéressant, c'est que t'es quand même passé de M6 le challenger à TF1 le leader, deux chaînes concurrentes. Et donc justement, le Monde titre « La bataille M6-TF1 s'intensifie ». Et justement, il parle justement de cette ambition d'M6 d'être la grande chaîne généraliste des moins de 50 ans, toujours ces moins de 50 ans, qui dérange les télévisions rivales. Et il y a aussi toute une histoire de mercato, surtout au niveau des animateurs, mais pas que. Il y a un mercato aussi au niveau des fonctions, entre guillemets, support, mais voilà, des départements qui font l'entreprise, les autres départements. Et tu fais partie justement de ces personnes qui vont quitter M6 pour rejoindre TF1, première chaîne de France et d'Europe. Incroyable. Comment on s'y prend ? Moi, ça m'intéresse. Aucun jugement, encore une fois, mais je trouve ça génial. Parce que je suis sûre que tu l'as très bien géré. Mais comment on s'y prend pour annoncer à sa hiérarchie, son équipe, qu'on quitte Cours Albert Ier pour la mythique tour de TF1 à Boulogne-Billancourt ? Enfin, tu vas chez les concurrents.
On était à Neuilly, on était avenue Charles de Gaulle, M6. À l'époque, on était un peu, en quelque sorte, moi j'ai le terme des meilleurs ennemis. Parce que pour le coup, M6, TF1, même si effectivement on était concurrents, on avait énormément de sujets communs.
D'accord.
Puisqu'on avait des sociétés en commun, okay. Notamment les chaînes TF6 et Série Club, mais aussi on était dans TPS, dans TCM sur la partie acquisition de droits audiovisuels. Donc on avait énormément de sujets communs, donc des chaînes avec des collaborateurs dans ces sociétés, donc avec cet actionnariat un peu compliqué. Et aussi beaucoup d'intérêts convergents en tant que deux chaînes privées. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi des grands sujets sectoriels qui étaient communs et pour lesquels on avait forcément des communautés d'intérêt. Donc beaucoup de relations. Donc moi, pendant mes 5 ans chez M6, les gens de TF1, en fait, je les voyais.
Okay.
Je les voyais dans le cadre des sociétés communes, dans le cadre d'un certain nombre de projets, parce qu'on a eu l'extinction aussi d'Analogique avec le GIE qui avait été créé pour ça. Donc on avait quand même beaucoup de points d'interaction ensemble. Donc je les connaissais, moi, les gens de TF1.
Tu avais déjà travaillé avec eux?
On travaillait ensemble, on avait des relations qui étaient pas toujours simples, mais pour autant, il y avait beaucoup de respect mutuel, notamment en tant que juriste, il y a quand même un respect du mode de fonctionnement, donc ce qui fait que c'est des relations qui sont à la fois très conflictuelles et en même temps très respectueuses. Alors, moi, j'ai toujours été très triste à chaque fois de quitter les sociétés dans lesquelles je travaillais. Donc, ça a toujours été, pour moi, été un crève-cœur. Et c'était plutôt des moments, ce que j'appelle, c'est des momentum. Mmh. C'est à un moment donné, il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Peut-être qu'avec les années, j'ai un peu déformé le message, mais c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, avec cette question de signes. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des signes qui font que, c'est un signe de changement.
Okay.
Et du coup, il faut savoir le saisir. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai bougé, c'était ces moments où j'avais pas forcément envie, mais c'était un espèce de momentum. Et donc, M6, moi, j'y étais depuis 5 ans. Et comme je te disais tout à l'heure, voilà, je commençais un petit peu à être à l'étroit. Et TF1 m'a contactée quand j'étais en congé maternité de mon deuxième enfant.
Ok.
Alors, c'était pas forcément le moment idéal, hein, du coup, pour, voilà, pour bouger sur un plan personnel. Mais pour autant, ça correspondait à mon momentum personnel, enfin professionnel en tout cas. Et c'était forcément, hein, moi j'avais juste une assistante, j'étais pas au sein de la direction juridique, donc j'avais pas de possibilité d'élargir mon terrain de jeu. Et chez TF1, le projet, c'était forcément du coup sur mon domaine de compétences premier, mais avec deux assistantes, une juriste. Et là, au sein de la direction juridique, donc avec beaucoup plus de perspectives, du coup, d'évolution. Donc, c'est plutôt, moi, le fait de se dire... comme je disais tout à l'heure, moi, je suis une hyperactive et je suis quelqu'un de très curieux. Et moi, j'ai besoin d'être en mouvement et j'ai besoin d'apprendre. Il n'y a rien de pire pour moi que, finalement, de se dire... de dire, finalement, je vais être sur un petit... Voilà,
stagner.
Une zone de confort, où je vais rester sur ma zone de confort. Je pense que, globalement, hein, quand on est juriste, on progresse ou on régresse. C'est très difficile de rester sur une zone de confort, parce que, moi, ce que j'ai appris chez M6, hein, je pense que c'est vraiment là où ça a été le plus présent, c'est l'exigence et l'excellence. Et le fait d'être sans arrêt en train, finalement, de se challenger, ça pousse... Enfin, c'est un peu aussi ce que je disais, hein, ça pousse le dépassement de soi et ça pousse, finalement, à aller chercher au-delà de ce qu'on pense être ses limites. Donc, voilà. Donc, c'est... Voilà, on m'a proposé finalement le job chez TF1 à un moment où ça résonnait clairement en moi, le fait de se dire, OK, je suis hyper bien, j'aime cette boîte, mais...
J'ai besoin de progresser.
C'est le moment où, en fait, il faut se remettre un peu en danger.
Ok, génial. Et donc, on t'intègre justement à la direction juridique corporate au niveau...
À la direction juridique, ouais. Et j'avais le corporate, corporate MNL.
D'accord, très bien, super. Et donc, c'était une opportunité, comme on dit, off-market. On t'appelle justement pour te la proposer, c'est
ouais.
ça ? Ok, super. Donc, t'as pas eu besoin de candidater ?
Non.
Pas comme les autres fois. Et qu'est-ce que ça fait comme sentiment, ça, de se faire contacter comme ça, qu'on nous propose des choses sans qu'on prenne le temps de le faire nous-mêmes ?
Déjà, je pense que c'est quand en plus sont des gens qu'on côtoie dans son univers professionnel, c'est aussi quelque part un peu une reconnaissance. Et puis, parce que ça veut dire que c'est des gens qui apprécient votre manière de travailler, le relationnel, le mindset juridique. Mais moi, finalement, je ne me suis pas tellement posé de questions là-dessus. C'était plutôt le fait de me dire mince, même si quelque part il y a des signaux qui montre que on arrive un petit peu peut-être au bout d'une aventure, c'est toujours c'est toujours compliqué finalement de se le dire et puis de l'accepter et de se dire bon ben voilà, va falloir passer à autre chose.
Ouais.
Donc c'est plutôt émotionnellement c'est plutôt ça que je retiens, puisque à chaque fois finalement il y a un côté moi je suis aussi attachée aux gens, je suis aussi toujours très reconnaissante de ce que j'ai appris, et donc c'est plutôt un moment d'émotion sur le fait de se dire bon ben voilà, il y a une page qui va se tourner, ça va être autre chose. Donc il y a aussi de l'excitation et puis de l'enthousiasme, mais il y a toujours quand même une petite part un peu de nostalgie qui passe quand même assez vite.
Bien sûr.
Mais c'est plutôt ça moi que j'ai ressenti. Sur le fait de se dire... ça a été très, très dur quand j'ai quitté ma première boîte aussi. Hein,
ouais.
Mais voilà, c'est plutôt ce côté. Puis après, je pense qu'au fur et à mesure des années, hein, on le gère différemment. Mais quand on est tout jeune, il y a quand même aussi un attachement à l'équipe.
Oui, et puis c'est aussi dû à tes personnalités. Tu fais partie justement de ce genre de personnes qui se nourrissent des échanges avec les gens. Et donc, tu ne peux pas être comme ça et dire « je quitte la boîte et je n'ai rien à faire ». Et puis, ça ne me fait pas un pincement au cœur. Évidemment que ça fait un...
Et puis on sait toujours ce qu'on quitte, on sait jamais ce qu'on va trouver. Donc en fait, il y a forcément une part d'inconnu. Et on se dit pas, je me dis pas toujours l'herbe est plus verte ailleurs. Oui. Donc voilà, il faut aussi être conscient de ce qu'on quitte. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu dur d'avoir cette part d'inconnu.
Et tu as gardé des contacts avec tes anciens collègues d'EMSUS ? Tu as réussi à... C'est compliqué.
Alors, pas tellement finalement, parce que du coup, dans le temps que je consacre en dehors moi de mes fonctions, je suis très impliquée au sein de la FGE. Et pour le coup, c'est pas forcément une instance où je retrouve des anciens collègues d'M6. Alors moi, j'étais pas à la direction juridique en plus, hein, j'étais à la direction financière, donc c'est quand même aussi un peu différent. Et finalement, aujourd'hui, en dehors de moi, de la société où je travaille, c'est vraiment aussi tous les gens qui sont impliqués dans, dans un certain nombre d'activités bénévoles ou dans le cadre de leur réseau professionnel. Et donc, c'est finalement beaucoup plus ce maillage finalement de personnes qui sont investies dans différentes activités. Beaucoup via la FGE ou parfois aussi auprès des universités, donc c'est pas tellement le même réseau.
Donc je retiens le conseil que alors si on est jeune juriste et qu'on veut rencontrer Nathalie Dubois, il faut adhérer à la FGE et on aura plus de chances de le rencontrer à ce moment-là.
De toute façon, je pense que adhérer à la FGE, c'est forcément un bon conseil.
Très bien. Ça.
Nathalie Dubois ou pas Nathalie Dubois.
Non mais il faut le dire, je pense que je suis sûre qu'il y a des personnes qui t'écoutent et qui ont beaucoup d'admiration pour ton parcours, moi en premier, même si je ne suis pas juriste, et c'est aussi l'occasion justement de rencontrer des personnes qui peuvent, comme toi ou comme Stéphanie Fougou, je ne sais pas, ou Marc Mossé ou n'importe qui d'autre, Jean-Philippe Gilles, qui peuvent justement être... inspirant ou de bons conseils pour ces personnes-là. Mais je comprends que tu ne prennes pas le compliment de la manière la plus orgueilleuse possible. Pas de problème, mais c'est bon, ça reste mon job. Oui, au-delà de ça, en préparant encore une fois ton épisode, j'ai écouté une interview dans le cadre de l'édition 2015 du congrès des DAF. Je suis tombée sur ça dans YouTube. Tu sais, j'ai tapé Nathalie Dubois partout pour trouver des informations sur toi. Et dans cette interview, tu parles de l'importance de l'opportunisme avec humilité, évidemment, et sans avoir peur d'utiliser ces termes. Aujourd'hui, quand on parle d'opportunisme ou de carrière, les gens pensent toujours que ça revêt un côté négatif. Pourquoi c'est si important pour toi d'être opportuniste ?
Parce qu'il faut être acteur de sa vie. Être opportuniste, pour moi, c'est pas du tout le côté négatif, arrogant. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout ça que ça évoque pour moi. Pour moi, quelqu'un qui est opportuniste, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui est passionné, qui a envie. Et c'est ça qui dégage de l'énergie. Et les gens qui dégagent cette énergie, cette volonté d'avancer, enfin, je veux dire, c'est hyper enthousiasmant. Et on a envie de. Et c'est un cercle vertueux qui s'enclenche. C'est parce que plus. Alors, moi, j'ai toujours eu coutume d'appeler ça, du coup, les ondes positives. Et le fait de dégager ces ondes, et pour moi l'opportunité c'est justement, c'est cet allant, et moi pour moi ça véhicule énormément de positif. D'ailleurs souvent je dis, il y a des gens, j'aime pas trop moi les gens qui sont envieux, qui disent ah là là il a de la chance. Mais alors bien sûr qu'il y a un facteur chance, mais à la base, on a tous des cartes et il faut faire au mieux avec celles qu'on a.
Qu'est-ce que tu vas faire pour aller provoquer cette chance ?
Exactement. Ouais. Et donc, être opportuniste, c'est provoquer sa chance aussi. Et aussi savoir saisir sa chance. Parce que finalement, c'est quelque chose, on en parlait tout à l'heure, le fait d'oser. Moi, j'ai appris au fur et à mesure parce qu'on ne m'a pas appris et j'ai pas eu de... Il n'y a pas tout ce qu'ont les étudiants, tout ce qu'ont les jeunes juristes maintenant, justement, d'accès, le fait de savoir et d'avoir ces discours-là. Mais oser, c'est ça, c'est être opportuniste et c'est saisir sa chance. Et donc pour moi, voilà, opportuniste, pour moi, c'est être acteur de sa vie. Et je pense que de toute façon, et encore une fois, il y a plein de chemins, il n'y a pas un bon chemin ou un mauvais chemin. Par contre, il faut savoir sortir de sa zone de confort et il ne faut pas subir. Voilà, c'est pas la vérité viendra pas d'ailleurs, et c'est à chacun de la trouver.
Je bois tes paroles et je suis totalement d'accord avec toi, vraiment. Et justement, encore une fois, c'est la journée des compliments, mais tu fais partie de ces personnes qui on me l'a dit, c'est la première fois qu'on échange réellement, je pense qu'on s'était croisés, mais tu sais, c'est vrai que tu dégages cette onde de ces ondes de positivité, et c'est vrai que au sein de ton équipe, notamment Sophie, mais à chaque fois justement qu'elles évoquent le fait de travailler avec toi, c'est toujours dans un côté très inspirant, très. Je me souviens que Sophie nous avait dit, Nathalie justement nous fait travailler sur le fait de prendre la parole en tant que juriste, et j'ai trouvé ça super super comme démarche, et voilà, tu dégages un certain dynamisme, notamment auprès de tes équipes et d'autres personnes, et c'est important de le dire. J'arrête ce monologue, mais si je te dis le projet de la cité musicale de l'île Seguin, qu'est-ce que tu me réponds ?
Une aventure humaine incroyable.
Ouais.
Une aventure humaine incroyable et professionnelle. Humaine, parce que c'est quand même 2 ans. C'est un projet donc très long. Donc moi, c'était une première de travailler sur une temporalité aussi longue. Qu'est-ce que c'est dans quel sens ?
Le projet de l'île musicale, de la cité musicale de l'île Seguin, pardon.
Ah bah, je sais pas si tu vois le bâtiment, hein. C'est sorti de terre. C'est un projet qui était mené par Sodexo et Bouygues, justement, sur la partie conception-construction. Et donc, ils sont venus chercher TF1 pour l'exploitation commerciale de la scène musicale, alors qui s'appelait pas la scène musicale, donc avec un bâtiment extraordinaire conçu par Shigeru Ban, hein, l'architecte japonais. Donc c'est vraiment pour moi une grande leçon de gestion de projet. Voilà, c'est vraiment là que j'ai pris conscience. Alors j'en ai beaucoup fait avec le MNE, parce que le MNE sont des équipes très pluridisciplinaires, donc il y a ce mode projet avec des timelines, avec le fait d'avoir plein de streams, le fait effectivement d'avoir beaucoup de gens qui travaillent ensemble avec des compétences très diverses. Donc ça, c'est vraiment l'essence aussi de la gestion de projet, et que moi j'adore, hein, ce mode projet. Et la scène musicale, c'est 2 ans de projet avec pour moi une grande leçon de le fait de, parce que enfin il y a un nombre de parties prenantes qui travaillent sur un projet de cette envergure qui est juste incroyable. Donc c'est une mécanique extrêmement bien huilée, avec vraiment des timelines à respecter, le fait de justement de coordonner tous ces corps de métier, enfin toutes ces entreprises, tous ces sous-traitants, enfin je veux dire, c'est enfin voilà, moi j'ai c'était une grande leçon pour moi. C'est aussi une grande leçon d'humilité, hein, parce que c'est quelque chose, moi, que je découvrais, hein, un projet de cette ampleur. Et moi j'ai pris un plaisir extraordinaire, parce que le fait finalement d'avoir cet investissement avec vraiment des gros coup d'accélérateur, enfin on fait que ça, c'est bon, voilà, j'ai pris un plaisir fou à travailler sur ce projet là avec une satisfaction aussi incroyable, hein, parce que je comprends, moi, la fierté qu'ont les collaborateurs, alors juristes et pas juristes, hein, qui travaillent justement sur ces grands ouvrages, parce que il y a, bon voilà, il y a une réalisation qui est juste formidable, et c'est vrai qu'il y a quand même une fierté finalement d'avoir cette espèce d'aboutissement qui est là pour durer.
Oui, et sur des ouvrages qui impactent soit le quotidien des personnes, justement, au jour le jour, c'est au quotidien, évidemment. Mais on en parlait avec Charlotte Arignon il y a quelques jours, qui est responsable juridique immobilier, expropriation, urbanisme, à la Société du Grand Paris. Et justement, elle nous parlait de ce côté fierté, sens qu'on y trouve. Et toi, j'imagine qu'à chaque fois que tu passes devant, tu dois te sentir à chaque fois très fière. C'est une sorte de rappel de tout le travail que tu as mené avec ces équipes qui ont travaillé sur ce projet. On va parler de Fnac Darty aussi, parce que c'est hyper important. Je vois qu'il nous reste une quinzaine de minutes. Les gens qui écoutent ce podcast savent à quel point on adore le temps long. J'aurais voulu avoir une trentaine de minutes de plus. C'est pas de ta faute, c'est de la mienne. On aurait dû prendre un créneau de 2 heures et pas d'une heure et demie. Évidemment, le groupe Fnac Darty, on ne présente plus. Rappelons quand même que c'est 957 magasins dans le monde. 25 000 collaborateurs, tu me dis si je me trompe sur les chiffres. 8 milliards... d'euros de chiffre d'affaires sur l'année dernière, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Forcément. 181 millions de visites en magasin, c'est énorme. Et en termes de digital, sur la partie online, c'est le 3e site de commerce le plus visité en France. Darty, c'est le 13e. Donc Fnac, le 3e, Darty, le 13e. Des chiffres hyper impressionnants, des marques vis-à-vis desquelles les Français, et non Français d'ailleurs, ont un fort attachement. C'est aussi des marques qui sont aussi dans notre quotidien finalement, parce que qui n'a jamais acheté un produit à la Fnac, qu'on nous les présente, qu'on nous dise qui sont ces personnes, parce que je pense qu'elles sont quand même assez, assez à la marge, assez marginales. C'est aussi des marques avec des histoires fortes. On va en parler avec Darty et le contrat de confiance. Peut-être que je nous expliquerai qu'est-ce que le contrat de confiance, et même si les gens le savent, évidemment. Et puis la FNAC fait aussi l'actualité en ce moment, avec une superbe campagne publicitaire, moi en tout cas qui m'a beaucoup parlé, qui s'appelle Libérons la culture, qui est super engagée, qui met en avant la curiosité, la passion des collaborateurs en magasin. Je pense qu'on a dû la voir pour ceux qui vivent à Paris dans les métros et pour d'autres autre part. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être à la tête de cette direction juridique FNAC et Darty?
Alors, moi, le projet chez Fnac Darty, c'est vrai que après les médias, c'est vrai que le retail, c'était pas forcément une évidence. Moi, c'était pas non plus. C'est pareil, hein, le retail comme les médias, hein, choix par hasard.
C'était le poste.
C'était le poste. J'ai eu la chance effectivement qu'on vienne me chercher pour ce poste-là. Moi, ce qui m'a motivée dans la proposition, hein, sur ce poste-là, c'était un an après l'acquisition de Darty par Fnac, et c'est le challenge de remplacer les deux directeurs juridiques donc, qui partaient en retraite, et de fusionner deux équipes. Donc voilà, donc c'était
incroyable.
Voilà, donc moi c'est vrai que chez TF1, je travaillais du coup sur la transformation de la direction juridique de TF1, avec tous les enjeux voilà de transformation des directions juridiques, hein, qu'elles ont toutes de manière différente en fonction de leur niveau de maturité. Et là, c'était vraiment le challenge de remplacer deux personnes, de fusionner deux directions,
deux équipes,
deux cultures juridiques différentes, voilà, avec des niveaux de maturité différents. Donc voilà, donc c'était moi ce qui m'a vraiment plu, c'était le challenge. Alors j'étais depuis 11 ans hein, au sein de TF1. Mon next step n'était pas tout de suite. Et comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est toujours ce besoin d'être en mouvement et de ne pas atteindre sa zone de confort. Mm-hmm. Voilà, donc je suis peut-être un peu...
Non.
Mais voilà, pour moi, c'est vraiment... Je ne sais pas du tout mon mindset, en fait. Je n'ai pas ce mindset zone de confort. Je devrais, des fois, je me dis. ce serait plus tranquille. Mais voilà. Et donc là, comme on est venu me proposer finalement ce challenge, au début, je me suis dit, mais pourquoi moi? Parce que j'avais jamais fait le droit de... Alors, les majeurs, hein, que sont distribution, consommation et immobilier, moi, j'en avais jamais fait. Et donc, c'était plutôt une question de me dire... c'est un peu toujours ce syndrome, hein, on en parlera, hein, qu'on dit, le fait de se dire quand c'est une femme, finalement, elle regarde du coup les compétences qu'elle a pas, ce qui est un petit peu l'inverse d'un homme.
Ouais.
Moi, c'est parfaitement le cas. Moi, j'ai du coup focalisé au démarrage sur, mais bon, voilà, ce que j'ai pas. Et c'est vrai que j'ai été assez frappée par, c'était Alexandre Bompard qui m'a dit quelque chose, moi, qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit, mais moi, j'ai besoin de gens, justement, qui ne sont pas en zone de confort, et parce que en zone de confort, en fait, on ne va pas nécessairement, en fait, imaginer de nouvelles choses, de nouvelles solutions. Et comme on disait tout à l'heure, hein, l'exigence et l'excellence, le fait, justement, de ne pas être en zone de confort, bah, ça oblige vraiment toujours à se dépasser et finalement à se projeter dans l'avenir et ne pas raisonner avec des certitudes du passé. C'est toujours un peu le problème, hein, de l'expérience. L'expérience, c'est bien. Mmh. Par contre, l'expérience, ça peut aussi conduire à avoir certains biais, certains stéréotypes, certaines idées reçues.
Oui.
Donc, il faut savoir aussi se bousculer et bousculer ses propres certitudes. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que finalement, je me suis attachée sur le challenge d'organisation, le challenge de management. Voilà. Moi, c'est vraiment ça qui m'a drivée dans cette prise de poste. De la même manière, hein, que M6 ou TF1, c'était pas tant l'entreprise ou le secteur d'activité que finalement le challenge personnel.
Et donc, tu arrives, c'est ton premier jour, ta première semaine, tu as devant toi Fnac Darty. Je sais pas, j'imagine la chose, je me dis que vous êtes dans une salle de réunion avec plein de juristes, un côté rouge et un côté jaune, et toi tu dois créer la couleur entre le rouge et le jaune, c'est l'orange, je sais pas. Comment tu fais?
Alors, c'est exactement ça. C'est que, alors, venant en plus de TF1, c'est un peu comme dans Koh-Lanta, en fait. C'est la réunification.
Oui, voilà. Totalement.
Mais c'est exactement ça. Moi, j'y suis arrivée avec des idées vraiment très, très construites, parce que bon, comme je suis une grande bosseuse, j'avais vraiment moi projeté comment j'allais faire, un peu la question des 100 jours, toute une méthodo. Bon, et puis dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. dans la réalité, je devais prendre une décision d'organisation à très, très court terme, puisqu'il y avait la préparation d'un plan de départ volontaire et je devais poser l'organisation, je crois, à peu près dans les 3 semaines de mon arrivée.
Okay.
Donc, pas vraiment le temps, en fait, d'apprendre à connaître les gens. En plus, les équipes d'Arty n'étaient pas sur le même site, puisqu'elles étaient à Bondy.
D'accord.
Donc, pas tout le monde ensemble. Et du jour au lendemain, moi, je remplaçais 2 personnes. Donc, 2 organisations avec tous les gens qui étaient rattachés aux anciens directeurs juridiques. Mmh. J'avais tout le monde en ratus au moins.
Ok. Okay.
Donc, et le fait de dire je remplace 2 personnes. Et donc, tous les interlocuteurs de la société avaient l'habitude de s'adresser à 2 personnes différentes.
Et pas une seule.
Et donc, moi, je suis moi avec 2 mains, 1 cerveau. Donc, du jour au lendemain, 2 fois plus de collaborateurs en direct que n'en avaient les 2 autres. Et 2 fois plus d'interlocuteurs sur des sujets très différents. Okay. Puisque les 2 directions juridiques avaient vraiment continué à fonctionner en parallèle. Donc, il y a une sorte d'incapacité humaine à faire ça.
Oui.
Ce qui fait que, finalement, là où moi j'avais imaginé que j'allais avoir le temps de faire un diagnostic très fouillé, de structurer, de me poser des questions, non, parce qu'en fait, il y a une question de survie. C'est juste une question qu'en fait, on ne peut pas attendre.
Oui.
On doit délivrer. Et donc, il y a des gens qui attendent qu'on délivre et qu'on délivre comme avant.
Il nous reste littéralement 8 minutes et je me dis quand même que ce serait très dommage de passer à la va-vite sur tous ces sujets et notamment sur la partie AFJE et sur la partie qu'on est en train d'évoquer avec Fnac Darty.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur séraphin.legal, section Demandez une démo. Merci encore et à très vite.